La Petite Radio.
Salut à tous, c'est Dorsa, vous écoutez La Petite Radio et vous avez bien raison de l'écouter. Bonsoir Tiffen.
Salut Dorsa, comment ça va?
Bah écoute, pas mal, il est tard, c'est le soir, on aime bien enregistrer le soir. Hein.
Bah ça permet d'accompagner avec un petit pinot noir.
D'Uruguay. Et nous avons une invitée aujourd'hui, c'est Élise. Comment ça va Élise?
Ça va bien, bonsoir.
Merci de nous accueillir chez toi.
Dans ton magnifique
avec
jardin.
Dans ton ara.
Voilà, avec le bruit du chenil.
Alors, donc on se trouve dans un joli jardin. On va faire un sujet aujourd'hui. On va parler du plastique. Mais attention, pas la chirurgie plastique, Tiffen, parce qu'on en a parlé.
Déjà parlé, et on n'aime pas
en
se répéter.
En long,
hein.
En large et en travers dans le podcast numéro 16, si je ne me trompe pas. Quand même que je connaisse mes podcasts, hein, parce que... Non, on va parler du plastique. Moi, je voulais commencer le sujet par voilà, la pollution, le plastique qu'on trouve dans les mers, les océans.
Parce que le plastique,
ce n'est pas que
toujours
fantastique.
Voilà, le plastique, c'est fantastique.
Voilà. Elmer Footbeat,
le caoutchouc super doux,
voilà,
c'est une question de... Flex, nous sommes adeptes du latex.
Ouh. La vache, j'ai perdu les deux personnes là.
Donc voilà, donc le plastique, ce n'est pas
que
fantastique.
Fantastique. Exactement, contrairement à ce que chantait Elmer Footbeat. Allez, on plante le décor, entrons dans le vif du sujet et commençons par des chiffres qui sont quand même très alarmants. Il faut que vous sachiez, les filles, mais je pense que vous le savez, que entre 1950 et 2015, l'homme a fabriqué 8,3 milliards de tonnes de plastique. Alors, bien sûr, une petite partie de cette production de plastique est recyclée, une toute petite partie, mais la plus grosse partie, près de 80% quand même, est versée dans les décharges qui, au final, polluent les milieux naturels, dont les océans et les mers. Alors, la présence du plastique dans les mers et les océans est un sujet préoccupant. Et cette accumulation de déchets a évidemment des grandes conséquences sur l'écosystème. Ça, on le sait. Alors, chaque année, des millions de tonnes de plastique arrivent dans les océans, principalement par les courants d'eau. Donc là, on parle des bouteilles, des sacs plastiques, des textiles synthétiques qui flottent, en fait, à la surface de l'eau. Et ce n'est pas biodégradable. C'est-à-dire que ça va prendre des centaines d'années pour se désagréger.
Oui, avant que ce soit dégradé, je pense qu'il y a beaucoup de poissons qui seront morts d'avoir...
Exactement. Voilà, il y a la disparition des baleines, parce que ces baleines ingurgitent ces plastiques. Donc voilà, tout ça se trouve dans leur estomac et ils en meurent.
Je ne sais plus quel animal le confond aussi avec...
La tortue.
La tortue, elle le confond avec des, je sais pas quoi, avec des méduses. C'est ça. Elle confond les plastiques et les méduses, et donc elle l'avale et c'est tout.
Voilà. Alors, selon certains chercheurs, le poids du plastique dans les mers et les océans serait égal ou supérieur à celui des poissons d'ici 2050.
Oui.
Donc là, c'est quand même assez flippant.
Oui, on dit qu'il y aura plus de plastique que de poissons dans la mer.
Moi, j'ai lu ça, je me suis dit, non, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, les côtes de Hawaï seraient les plus polluées de la planète, et on parle ici du nord de l'océan Pacifique. Et cette immense plaque de déchets située donc, dans cette zone est appelée le 7e continent de plastique. Ou la soupe de plastique, on a vu quand même pas mal d'articles là-dessus, pas mal de reportages. Et c'est un océanographe américain qui a découvert ça en 1997, et c'est Charles Moore qui a découvert justement cette zone d'ordure dans le Pacifique. Et donc ça a débuté là. Alors évidemment, on peut tous contribuer, même à toute petite échelle, la réduction, en fait, enfin notre consommation de plastique. Alors les trois, nous vivons en Uruguay, et vous savez que voilà, quand on va faire nos courses, il y a une quantité de sacs plastiques qui sont distribués à chaque fois. Et moi, ça me rend dingue parce qu'au lieu de faire ça, on pourrait très bien prendre un sac en toile et faire ses courses.
Si tu es dans un pays où les poubelles sont triées, recyclées, ne serait-ce qu'incinérées, le problème est moindre. Le problème en Uruguay, c'est qu'il y a une décharge publique qui est complètement submergée et le problème sont les décharges clandestines qui sont dans les zones inondables et dès qu'il pleut, tout se retrouve dans le rio. Parce qu'il y a une partie de la gestion des déchets qui peut conduire à imaginer que le plastique est juste un état intermédiaire entre le pétrole et la production d'énergie. Et donc, du coup, tu incinères avec l'énergie et la vapeur que tu peux cogénérer et tu utilises ce plastique pour produire de l'énergie parce que tu n'as pas beaucoup de perte de chaleur entre si tu fais brûler un plastique ou si tu fais brûler du pétrole. Mmh. Donc, en fait, tu peux t'en servir comme énergie. Sauf qu'il y a évidemment un énorme coût environnemental pour emmener toutes les tonnes de déchets qu'on produit chaque année de notre foyer à l'usine de recyclage, etc. Donc, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut consommer sans s'en soucier.
Fait des fumées noires, le plastique, quand tu le brûles.
Oui, il y a des filtres, mais ouais. Ça ne suffit pas. En effet, il faut que la législation aussi s'adapte, soit adaptée.
En fait, on avance dans le sujet et je me rends compte que j'ai oublié de présenter notre invité.
Oh, bah mince, faute alors.
Grosse faute.
Ouh là là.
Je suis virée.
Tu feras 3 AV non, mais... et 4 pater.
Non, alors, Élise, c'est parfait qui pour faire la transition. Non, Élise, donc tu es française, tu habites en Uruguay à Montevideo.
Oui.
Depuis
janvier 2017.
Donc bientôt un an. Ça se passe bien?
Très bien.
Et vous venez du Brésil?
Oui.
De Sao Paulo, où vous avez passé combien d'années?
7 ans.
Et 3 enfants?
3 enfants.
Voilà, donc on s'est connus ici à Montevideo. Tu t'y connais quand même bien en plastique, c'est bien pour ça qu'on t'a invité dans l'émission. Alors voilà.
Je m'y connais bien, je ne sais pas si je suis pas.
Ça t'intéresse en tout cas.
Je ne me prétends pas être une spécialiste, mais ça m'intéresse, oui.
Ça, c'est déjà une bonne chose, hein, parce que si on avait invité quelqu'un qui n'a rien à carrer...
Toi, tu t'es recyclé. Tu essaies de te recycler dans le plastique.
Exactement.
Recyclé.
Ouais, on parlera de ton projet juste après. Donc, ce que je disais, c'est qu'évidemment, tout le monde peut contribuer à petite échelle pour réduire la consommation du plastique. Mais on le sait, c'est hyper difficile de nettoyer les océans, d'enlever en fait tous ces plastiques qui flottent sur l'eau. Et je voulais quand même parler d'un projet que je trouve très beau. En fait, c'est un jeune néerlandais de 22 ans qui s'appelle Boyan Slat, qui a créé ça. Et en fait, son projet s'appelle Ocean Cleanup. Lui, en fait, il espère nettoyer plus de la moitié de la grande plaque dont on parlait là, dans le Pacifique. Ne pas confondre avec le plastique, dans le Pacifique. En fait, d'ici 5 ans, grâce à des barrières d'un ou deux kilomètres de long qui vont installer en fait, et attacher à une ancre flottante qui va mesurer à peu près 12 mètres de long. Alors apparemment, ils ont déjà travaillé sur le prototype l'année dernière et ça a montré des bons résultats. Donc moi, j'ai trouvé ça vachement bien parce que en fait, ce mec est hyper jeune et son projet va débuter en fait, vraiment concrètement dans le courant de l'année prochaine, en 2018. On va voir ce que ça va donner. Le site internet, je vous invite à aller le voir, www.theoceancleanup.com. Donc là, il y a plein d'infos, c'est en anglais, mais c'est vachement intéressant. Et juste pour finir, ce projet a été choisi par le Time Magazine comme l'une des 25 meilleures inventions de 2015. Et c'est le plus grand projet de nettoyage de l'histoire.
Je veux juste intervenir sur le sujet. Bon, c'est une super initiative, ça, enfin, il n'y a aucun doute. Mais il y a plusieurs problèmes. On ne sait pas... En fait, il va y avoir des filets sous cette grosse bouée de plastique. Mmh. Et ça peut déséquilibrer les océans parce que les filets, ils ne vont pas choisir s'ils emmènent que du plastique ou des poissons ou du plancton, etc. Donc, il y a quand même un risque. Enfin, t'imagines un aspirateur géant qui emmène tout, il ne va pas pouvoir faire le tri de ce qu'il faudrait laisser entre la nature qui est là et qu'il ne faut pas bouger.
Ce n'est pas un smart cleaner,
voilà.
Hoover.
Exactement.
Et
l'autre point...
Merde.
En fait, sur ce septième continent de plastique, c'est que la partie immergée de l'iceberg. C'est qu'en fait, un des problèmes, c'est les nanoparticules de plastique qui, elles, passeront à travers les mailles de son filet.
Du filet, ouais.
Et du coup, c'est une super initiative, mais c'est pas la solution miracle, quoi. Je pense pas que ce soit une fée. Bien sûr qu'on peut souligner son initiative. Après, il faut savoir aussi qu'est-ce qu'il va faire du plastique qu'il récupère, parce que le récupérer, il est souvent extrêmement détérioré. Donc, en fait, utiliser du plastique, recycler du plastique qui a passé 5, 10, 15 ans dans la mer, c'est très difficile. Enfin, il faut qu'en même temps, des innovations émergent pour utiliser ce plastique détérioré. Parce qu'en refaire du plastique tout neuf, même si le plastique est fantastique, ouais. c'est pas forcément très facile. Donc, c'est les problèmes.
Moi, je trouve que
problèmes.
Tu t'y connais quand même vachement en plastique. Hein,
ouais, je trouve. Hein. Ouais, là, je me sens un peu nulle, en fait, à côté.
Attends, elle a préparé pendant 15 jours. Tu la décalques, elle a direct, quoi.
Non, donc en fait, je pense que le point clé, c'est quand même de réduire notre consommation et d'essayer de recycler le plastique avant qu'il atteigne les océans. Après, c'est vrai que si on veut sauvegarder la vie marine, il faut absolument qu'on s'attaque au problème du plastique qui est déjà, mais aussi éviter que le plastique n'aille dans les océans. Ce qui est un peu déroutant, c'est de voir que le pétrole, c'est une matière incroyable. Tu peux en faire n'importe quoi et qu'on l'utilise soit pour le brûler, soit pour faire du plastique, alors que tu en as besoin.
Et beaucoup de gens ne le savent pas, hein, ça. Hein. Alors, donc, c'est bien de le dire.
En fait, je pense que la décroissance, il y a quelque chose de triste inhérent à la décroissance. Enfin, tu te dis, c'est une vie où on va recommencer à faire des veillées et éteindre la lumière. Enfin, c'est un peu ça l'image de la décroissance.
Oui, c'est un peu ça l'image. Après, je suis pas sûre que ce soit vrai. C'est plutôt d'arriver finalement à un certain équilibre.
Exactement.
Voilà, c'est
Je pense que grâce aux innovations, je pense qu'on va consommer autrement, ça c'est sûr.
Voilà. Moi, je pense qu'il faut changer les esprits parce que évidemment que je savais que voilà, les plastiques se trouvaient dans les océans et les mers, mais c'est vraiment en regardant il y a plein de reportages qui sont super bien faits là-dessus et je pense qu'il faut déjà commencer à changer l'esprit. Je pense qu'on se rend pas compte si on n'entre pas vraiment dans le sujet, vraiment les conséquences que ça a quand même sur la planète. Hein. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont un peu à milieu de ça, quoi. Ils disent bon bah moi j'utilise mes plastiques vraiment dans le sens faut déjà commencer par changer ça petit à petit. Alors c'est évidemment ça prend un temps fou parce que c'est pas facile de changer les esprits.
C'est vrai qu'il y a des trucs, c'est simple. C'est vrai que par exemple si on te donne la possibilité d'acheter en vrac tes tomates plutôt que dans un truc de polystyrène avec tout ça
qui est très difficilement recyclable d'ailleurs.
Enfin je veux dire c'est des trucs qui te demandent effort minime et ça change pas radicalement ta vie.
Non mais en fait la production de plastique, aujourd'hui, il y en a quand même 20% qui est uniquement pour l'agroalimentaire, donc pour les emballages. Donc c'est nous, quand même. Enfin, de là à parler de décroissance, je sais pas, mais c'est vraiment la façon dont on se nourrit. En fait, je trouve que ça rejoint beaucoup la dégradation de la planète vient essentiellement de la manière dont on se nourrit. Entre envoyer du soja du Brésil jusqu'en Europe, le transport de la nourriture où il n'y a rien qui est produit à moins de centaines de kilomètres, plus les emballages, c'est quand même 20% de la production du plastique. C'est énorme. On pourrait imaginer que c'est l'agriculture ou les voitures, mais pas du tout. C'est l'emballage agroalimentaire.
Il faut vraiment commencer à réduire sa consommation, évidemment, ça part de là.
En fait, je pense que le problème vient du fait que quand tu mets tu mets quelque chose dans ta poubelle, t'as l'impression que c'est le trou noir, ça disparaît.
Ouais. Mais en fait, c'est
absorbé. Et
ça passe dans la matrix.
Exactement. Et moi, c'est un truc qui m'a toujours interpellée. C'est pour ça que j'en suis venue au recyclage du plastique. En fait, donc, en Uruguay, il y a Tuambathe Serve. C'est un programme de recyclage de tout ce qui est emballage, type tes sachets de lait, tous les produits courants uruguayens.
Oui. Alors parce que ça pourrait faire le truc d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur, comme on veut, hein, ça dépend des gens. Donc le lait en Uruguay se vend en sachets.
Ah oui, c'est vrai, moi j'ai dit, ça m'a interpellée il y a 3 ans.
Tétrapac,
c'est vrai.
Se vend
alors
en
ils vendent aussi en tétrapac.
C'est plus recyclable, plus recyclable que le tétrapac.
Voilà, donc c'est formidable, sauf que souvent ça fuit, donc tu as du lait plein les mains et voilà.
Ça m'est jamais arrivé ça.
Ah, c'est une certaine technique quand même pour ouvrir le lait.
Non, je trouve ça assez résistant moi.
Non, c'est donc mes initiatives perso, c'est ça, c'est de jamais prendre un sac plastique, de recycler au maximum tout ce qui se recycle, de mettre des couches lavables à mon enfant quand je peux, et d'essayer de faire un maximum de choses fait maison.
Parce qu'il faut savoir que les pampers, les couches, en fait, c'est super, super polluant.
C'est genre 500 ans.
Ouais.
Et ça c'est vraiment une pression du consommateur.
Donc ne faites pas d'enfants, vraiment.
On sait faire des couches en cellulose, mais c'est juste qu'il n'y a pas la pression du consommateur pour avoir des couches en cellulose, parce que c'est possible. On a la technologie.
Alors moi, je voulais parler avec toi, Élise. Tu as un projet. Tu veux nous en parler un petit peu ?
Oui.
Voilà, vas-y.
Shoot. Donc, juste pour l'historique, donc ce projet est né parce que au départ j'ai juste étudié la chaîne du plastique de recyclage ici en Uruguay. J'étais déjà plus branchée sur le plastique des océans. Enfin, comment le plastique qui est récupéré dans les océans, qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc il y a plusieurs initiatives en Europe, notamment des vêtements qui sont faits en plastique recyclé, d'une marque espagnole, Ecoalf. Justement, c'est des pêcheurs qui, après avoir jeté leur filet pour pêcher les poissons, pêchent le plastique. Et ils arrivent à en tisser, à refaire des tissus et à en faire des doudounes, des vêtements, etc. Au début, j'étais plutôt partie sur ce projet-là, utiliser le plastique des mers. Et en fait, en interrogeant différents acteurs du recyclage uruguayen, et en visitant autour les décharges clandestines, je me suis aperçue qu'en Uruguay, le problème n'était pas tant le plastique qui est dans la mer, mais plutôt empêcher le plastique d'y aller. Et donc,
je t'interromps, mais comment tu as réussi à visiter des décharges clandestines ?
En fait, c'est très simple. Tu vas à Camino Carrasco, tu vois, et tu passes Camino Carrasco, et là, tu as des décharges à ciel ouvert. Enfin, tu en as énormément. Et avec des bidonvilles autour, des mecs qui vivent vraiment de la poubelle.
Donc Carrasco Nord, hein,
c'est
ça ?
Carrasco Nord.
Carrasco,
c'est
un
à 5 km du charmant jardin où l'on se trouve.
C'est fou, hein, c'est
oui,
juste
parce
à côté.
Que Carrasco, ouais, c'est en fait le quartier, pour ceux qui ne connaissent pas, qui doivent être nombreux, qui est un quartier très bourgeois. On va dire c'est le quartier le plus bourgeois de Montevideo.
T'es en train de nous traiter de bourgeois, là.
T'es en train de dire qu'on vit sur la 5e avenue de New York, quoi.
Non, mais c'est un quartier résidentiel riche. Oui. Quartier résidentiel riche de Montevideo, donc avec des belles maisons, des beaux jardins, etc. Et effectivement, donc ça c'est Carrasco Sud et Carrasco Nord, par contre, il y a des quartiers, des zones, on va dire, très modestes.
Ça craint, quoi.
Bon, il y a un problème de sécurité aussi, mais en plus, c'est des gens qui ont un niveau économique faible, voire très faible.
Exactement.
Mais du coup, tu t'es ramenée dans la décharge toute seule ?
Non, en fait, c'était plutôt par hasard que j'ai découvert ces décharges-là. Et après, en parlant avec plusieurs acteurs du recyclage, j'ai vu des cartes, des Google Earth de Montevideo où tu vois les décharges soulignées autour de Montevideo. Donc, il y en a beaucoup. Il y a la décharge municipale qui est connue, mais là, qui est régulée.
Et qui est où ?
Qui est aussi dans Carrasco Nord, mais tu as aussi des décharges clandestines où c'est toute une mafia, où les entreprises payent en sous-main pour aller décharger dans ces décharges clandestines plutôt que dans la décharge municipale parce que c'est moins cher.
Et c'est aussi les carritos, les gens qui font les poubelles.
Classificador,
comment tu appelles ça ?
Classificador, on appelle ça.
Ça,
ici.
C'est la version truc.
Politiquement
sinon, ça
correct.
Ça s'appelle des carritos. Mm.
Bon, alors vas-y, raconte-nous ton...
Donc, j'ai réfléchi à comment je pouvais aider au recyclage à Montevideo. Et il y a plusieurs entreprises uruguayennes qui recyclent, dont une qui, j'ai vu sa matière recyclée, sa matière m'a tout de suite beaucoup plu. C'est une matière noire, c'est en emballage secondaire, c'est-à-dire par exemple quand tu as une palette, c'est le film plastique qu'entoure cette palette.
D'accord.
Je sais pas, cette matière m'a inspiré une lampe et du coup j'ai réfléchi au projet de la lampe. J'ai toujours voulu faire des lampes en recyclé, LED, etc.
Même au Brésil, où c'est venu ici.
Non, c'était avant.
Des lampes LED ou des lampes belles ?
Non,
des lampes LED.
Des lampes avec une ampoule LED.
Ah d'accord, faut mieux préciser. Donc elle ne fait pas des lampes moches. Hein.
C'est
des
ça,
lampes,
des LED.
Non, en fait, l'idée justement, c'est pas du tout de vendre un produit qui se vendrait uniquement parce que c'est recyclé. Parce que je pense qu'il vaut mieux ne pas consommer dans ce cas-là. On revient à la croissance, à la décroissance, mais c'est, il faut que l'objet soit beau et qu'il t'apporte quelque chose, sinon, abstiens-toi. Et du coup, l'idée, c'est de faire une lampe prédécoupée, donc c'est flat packaging, ce qui permet d'avoir des économies de coûts de transport et de consommation d'énergie. Et également, dans l'idée du do-it-yourself, c'est toi qui construis ta lampe. Donc, il n'y aura pas plusieurs possibilités, mais ça permet de ne pas juste acheter en étant passif, mais plutôt aussi de partager un moment...
C'est un moment ludique aussi, quoi. Voilà. C'est sympa de pouvoir monter la lampe.
De l'avoir...
Alors, dans le projet, t'en es où, là, concrètement ?
Alors, j'ai eu un problème de matière, parce que cette matière sur laquelle j'avais flashé n'est pas disponible. C'était un test, etc. Donc, ils veulent pas la. En plus, moi j'en ai besoin de très petite quantité. Donc, je suis à la recherche d'une nouvelle matière et je crois que j'ai trouvé. C'est le plastique qui recouvre les cultures, par exemple les cultures de fraises. Je sais pas si vous voyez, c'est un plastique noir très fin.
Et, pour empêcher la grêle.
La grêle, la pluie. de rongeurs et de bêtes en tout genre. Et donc, ce serait potentiellement cette matière-là. D'accord. Que
elle pourrait être disponible dans ton délai.
Dans mon délai, oui.
Donc, si ça sort avant Noël, c'est parfait. Tu pourrais m'offrir ça, non, Tiffany?
Ça va pas.
Bah, écoute,
depuis
c'est
quand on
sympa,
fait des cadeaux,
non,
il faut pas délirer.
Non, mais c'est vrai, c'est sympa, une petite lampe.
Oui, tout à fait, oui, pourquoi pas. Écrit ta
carte au Père Noël.
Surtout si ça s'allume, c'est bien, quoi.
Ouais, écrit ta carte au Père Noël, on sait jamais. Un miracle peut toujours se produire.
Moi, c'est cool. Alors, tu peux dire le nom ou c'est pas encore...
J'en suis pas sûre, donc on va garder la surprise.
D'accord.
Mais la petite radio sera...
Un scoop.
T'as intérêt à nous envoyer un email.
En tout cas, c'est un super projet, Elise. Bravo pour...
Il faut quand même dire que t'avais rien à voir dans... Enfin, t'étais pas du tout dans ce domaine.
Non, je suis pas designeuse, non.
Ni plasticienne.
Non, c'est courageux, c'est bien. On a hâte de voir le produit final. Merci Elise, en tout cas.
De rien, merci.
Je crois qu'on va te garder pour la deuxième...
De m'avoir accueilli.
Ah bah non, c'est toi qui nous accueilles chez toi. On aimerait bien te garder pour la deuxième partie. T'es dispo?
Bien sûr, avec plaisir.
J'espère, sinon tu nous fous dehors là. On va lancer la première chanson. Donc j'ai découvert ça, je te l'ai envoyé, tu m'as même pas répondu, Tiffany.
Non, mais ça, j'ai bien aimé.
Ah, c'est pas mal. Hein. Ça s'appelle Hypnolove. La chanson s'appelle La Piscine. Et franchement, j'ai dû l'écouter 10 fois aujourd'hui. J'ai découvert ça que hier. Et franchement, j'ai trouvé pas mal. Vraiment, gros coup de cœur. Hypnolove, La Piscine. Et on se retrouve.
Avec la chanteuse de L'Impératrice.
Exactement, Flore. Et on se retrouve pour la deuxième partie avec Elise et Tiffen, bien sûr. Allez, on lance la chanson. À tout à l'heure. Voilà, on est de retour pour la deuxième partie, toujours avec Élise et Tiffaine.
Ah, je croyais que tu m'as oublié, elle est où là?
Mais je peux pas t'oublier, Tiffaine, t'es toujours à côté.
Ça va être un nouvel épisode 14.
Alors, bon, c'est très bien. Élise, toi, t'es à fond bio, on le sait. Voilà, je suis tombée sur un article, ça m'a fait vachement penser à toi. Pas parce que, voilà, le sujet me fait penser à toi, mais le côté bio me fait penser à toi. Donc là, je suis en train de m'emmêler.
Oula,
je recommence. Je recommence.
Non,
ça m'a fait penser.
Coming out de Dorsa.
Non, je vois bio, je pense à Élise. Donc je suis tombée sur un article parce que voilà, on entend bio partout, on se lève bio, on se couche bio, on parle bio dans les aliments, les transports, les produits cosmétiques, tout ça. Enfin bref, tout est bio, tout est écolo, voilà. Mais je suis tombée sur un article sur.
T'es bio, mon fils. Qu'est-ce que t'es bio, mon fils? C'est ça.
Je suis tombée sur le sexe bio et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Bon, alors on peut être écolo jusque sous la couette. C'est intéressant.
Est-ce que la couette est bio?
Ouais. Parce que, voilà, même les draps peuvent être bio. Donc déjà, c'est pas mal. C'est votre cas, les meufs?
Bien sûr.
Cet article montre plein de conseils pour faire l'amour, en fait, si tu veux, écologiquement, quoi.
Et si tu fais pas l'amour, si c'est juste comme ça, touch and go?
Touch and go, kiss and fly, quoi.
Un touch and go bio, c'est possible? Vous dites pas touch and go? Ici, ça se dit touch and go.
Tu veux dire quoi?
One night stand,
ouais, ça je connais.
Ouais, mais ici, touch and go.
Non, mais à la base, le sexe, c'est quand même bio.
Alors, vas-y, je sens que t'es lancée sur le sujet, là.
Non, mais, enfin, il n'y a rien de plus...
Naturel
et organique. Ouais, que,
j'ai découvert ça et après, j'ai eu mes enfants. Ouais, c'est vrai. Non, ce que je veux dire, c'est que voilà, dans cet article, il montre plein de conseils pour être plutôt écolo. Les draps doivent être en coton, si bio. On veut être bio, évidemment. Si possible, ils proviendraient du commerce équitable.
Super.
Mieux ça.
Là, c'est.
Voilà.
Bioéthique.
Attends, je vois rien.
C'est mieux. D'arrêter de nous faire, de s'emmerder et d'aller faire l'amour sur la pelouse.
Ouais,
ou
dans
sur
les
la plage.
C'est mieux, ouais.
C'est l'amour à la plage. Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic le sable, c'est pas que du bonheur, hein, quand même. Alors que
non,
c'est bien pourri. C'est bien pourri. Bref, c'est pas le sujet là, les filles. Alors, c'est mieux de faire l'amour avec les lumières éteintes, évidemment. C'est vachement plus écolo. Hein. Vous n'allez pas dire le contraire, hein, quand
Remarque,
même.
Marc, je vais te dire quand même, une ampoule LED. C'est 3 watts ou 4 watts.
Ça va.
Je peux te dire que ça, ce que
tu
ça
peux
consomme.
Quand même brancher,
tu
ma,
peux,
de toute façon,
tu peux faire l'amour.
Voilà.
Ben voilà.
Tu peux faire l'amour.
Bon,
toute
non,
la
mais,
nuit.
En fait, ça va me bloquer si j'ai ta lampe à côté.
Par contre, ce qu'il faut éviter, ce qui est super pas bio.
Je sais pas.
Ce qui est super pas bio, c'est faire l'amour sur une machine à laver en route parce que là, c'est du 1000 watts. Hein. C'est du 1 kilowatt. Alors qu'avec le four allumé, non plus. Mais par contre, la lumière à 4 watts, je pense que tu peux y aller.
Bon, je reviens, mes petits.
Toute la nuit,
tu peux. Conseil qu'il y avait dans l'article, si on est branché sextoy, alors il y a des sextoys écolo, hein, sans pile, c'est plutôt pas mal, on peut
le
les recharger.
Le
sexe à pile. Justement, mais sans pile, le sexe sans pile.
Le sexe
mieux.
Sans pile.
Voilà, on peut recharger via un câble USB. J'ai aussi vu. Oui, c'est vrai, il y a
super
un peu de.
Non, mais lui, en lui-même, il consomme.
Ah, c'est vrai qu'il y a un câble. Non, ça va pas. Mauvais exemple. Non, par contre, j'ai vu. Alors, je
énergie
sais pas.
Solaire, ouais.
Ouais, énergie solaire, voilà. Sextoy, énergie solaire.
Puis en même temps, il devient
c'est
chaud
pas mal.
Comme ça. Chaud
oui,
comme
c'est recharge avec les mouvements et les frottements, non.
Tu peux nous refaire le.
Le petit. Bon. C'est intéressant
et
comme
attends.
Sujet. Il y a vraiment des
non,
gens
mais
qui,
je vois que ça...
qui cogitent. Hein.
Attends. Et on peut prendre sa douche à deux. C'est vachement plus écologique, quand même, pour l'eau qu'on consomme. Si vous êtes branché boisson aphrodisiaque, il y a le thé bio. C'est pas mal.
Le
c'est
thé
mal.
Bio
bah, c'est le thé bio, c'est vachement
moi,
bien.
Moi, je suis pas bio, toi, t'es bio.
Moi, je suis pas du tout bio, mais c'est bien.
Et
il
lui,
paraît.
Il est bio ou toi,
non.
T'es bio.
Non, Philippe, il est pas bio du tout, quoi.
Moi, je suis bio et toi, t'es bio.
Non, moi, je suis pas bio, mais par contre, je vois pas là, je vois rien, là. Et puis, apparemment, il y aurait des préservatifs en latex, parce que normalement, le latex, le préservatif...
Le plastique, c'est fantastique non.
C'est des
les
produits chimiques, voilà, donc c'est des substances quand même.
Ouais, c'est un allergène.
Voilà.
C'est quand même problématique.
Quand
hein.
C'est problématique, mais il existe des préservatifs en latex bio. Alors, je connais pas les marques, mais sans parabènes ni produits toxiques. Donc voilà.
Sans parabènes et phtalates, tu peux les consommer. C'est Cléopâtre qui serait contente, dis donc. Hein.
Tu peux les bouffer.
voilà, c'est ça.
C'est ça.
C'est consommation bio.
Bon, voilà, c'était un truc que je trouvais sympa. Voilà, le sexe bio. C'est vrai, on n'en parle pas assez. Mais...
Ah bah c'est
on
sûr.
On parlait que des aliments, quoi. Enfin,
non, mais ça gagne à être connu, hein. Je veux
mais
dire,
fous-toi de ma gueule, là, c'est bon. T'as vu un truc, toi, sur le net dernièrement? Non. Alors.
Mon site. Mon site internet. Qui est super pas bio et super pas sexe.
Dorsa.com.
3615, que tif tout.
Bon, voilà. Sinon, j'ai vu un autre truc, les filles. Et là, je fais de la pub pour un des podcasts. On en a déjà parlé à la petite radio, le podcast numéro 6.
La meilleure blague de tout de toute l'histoire de la petite radio.
Je sais pas si c'est dans celui-là, mais bon.
Si, Hugo Offray. Ah, le oui, Hugo Offray.
Non, alors je suis tombée sur un article, le tour du monde des méthodes d'épanouissement, et effectivement dans le podcast numéro 6,
le
on a parlé
bio,
du
ça
Hugo.
Rentre pas dedans dans les méthodes
si,
d'épanouissement.
Bah si, hein, c'est pour les hivers rigoureux, oui, c'est vrai. Donc on a parlé du Hugo avec Tiffen. Donc le Hugo, pour ceux qui ne savent pas, c'est cet art de vivre danois qui consiste à vivre dans le bonheur en mettant la priorité sur son bien-être, en se créant son petit espace cocooning comme ça à la maison, ce qui nous procure de la bonne humeur, de la positivité, surtout durant justement les longs mois d'hiver. Voilà, alors cet art de vivre a dépassé l'année dernière, on l'a dit, a dépassé les frontières et c'est arrivé en France. Ça fait le gros truc, voilà, le Hugo machin, bon, y a eu plein d'articles là-dessus. Voilà, le plaid au coin du feu, ton petit chocolat chaud, espace cocooning, quoi, donc c'est pas mal. Mais dans l'article que j'ai lu, apparemment, ce ne sont pas que les Danois qui ont le monopole de cet art de vivre. On trouve ça ailleurs dans le monde. Et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais au Japon, ils ont une philosophie de vie assez simple et authentique aussi. Et ça s'appelle le l'ikigai. Mm-hmm. Vous en avez entendu parler ?
Non.
Non. Non.
Moi non plus, jusqu'à hier. Alors, ce serait le secret d'une longue et heureuse vie. Alors, vous savez que les Japonais ont une espérance de vie quand même plutôt élevée.
Oui, c'est la première du monde.
C'est vrai.
Hein.
Je crois que oui, mais à vérifier.
Ouais, je pense, pour les femmes japonaises.
Voilà. Donc, c'est sans doute dû à l'ikigai. Alors aussi, il faut dire qu'ils mangent sainement. Hein. Ça, c'est vrai que les Japonais, ils mangent sainement. Mais ils sont à fond sur l'ikigai. Donc, c'est une méthode qui focus sur la joie de vivre. C'est un état d'esprit que les Japonais adoptent pour rester optimistes et positifs. Alors, l'idée, c'est évidemment, on vieillit, mais on reste jeune. Tu vois le truc ?
D'accord. Voilà. Comme Tortue Géniale dans les Tortues Ninja.
Oui, je pensais pas tout de suite à ça, mais voilà. Donc, en fait, c'est une raison d'être, l'ikigai. C'est ce pourquoi on se lève le matin. C'est en plus de, comme je disais, les Japonais, ils mangent très sainement. D'ailleurs, ils mangent avec des baguettes, ce qui montre qu'en fait, ils mangent pas en grande quantité. Le fait de manger avec des baguettes, bah, justement, tu prends ton temps pour manger. Non, mais c'est vrai. Hein. Donc, ça, c'est une mode de vie quand même. C'est assez sain. Alors, ils adoptent l'ikigai. Donc, c'est le bonheur de vivre passionnément. Donc, tu fais ce que tu as envie de faire, ce que tu aimes, et c'est le secret des Japonais pour vivre le plus longtemps et en bonne santé.
Alors moi, j'ai vu pas mal de reportages aussi sur des petites vidéos sur Facebook, sur le mode de vie japonais, tellement il est génial, ils adorent nettoyer leurs écoles, ils adorent faire ça et tout. Enfin, je veux dire, faut quand même... Il y a quand même un taux de suicide d'écoliers au Japon qui est quand même...
C'est vrai,
le Japon, c'est
vrai,
quand même une société super compétitive, jusqu'à il n'y a pas longtemps quand même méga machiste, et avec
les méga nationalistes.
Et toute la mafia japonaise derrière. Donc, bon, c'est vrai. Enfin, je veux dire, il y a quand même... faut pas idéaliser non plus tout, quoi. Mais je pense qu'effectivement, il y a une philosophie de vie,
non,
même dans les onsen, les rotenburo, là où tu vas te... tu vas prendre des bains chauds, tout ça, machin. C'est vrai qu'ils aiment la nature. C'est vrai que tu les vois, ils prennent en photo. Enfin, je veux dire, ils sont sensibles aux petites beautés du monde. Ça, je pense qu'il y a des choses à apprendre. Après, il y a d'autres trucs. Enfin, la joie de vivre des Japonais. Enfin, je n'aurais pas défini comme société qu'il y a une grande joie de vivre aux Japonais. Moi, je n'aurais pas choisi les Japonais, mais...
Bah écoute, si, l'ikigai, à fond les ballons, hein, les Japonais. Ouais. Allez, on quitte le Japon.
Mais nous, on a le bourrage de gueule, hein, ça nous rend heureux aussi, hein, je veux dire, en Bretagne.
Hein. On part en Suède, là-bas, ils ont le lagrom. Donc, c'est aussi un bonheur simple de la vie. Le lagrum, en fait, c'est le ni trop peu, ni pas assez. C'est vraiment dans la juste mesure, quoi. Voilà, c'est le bonheur dans la limite du raisonnable. Par exemple, on ne va pas travailler trop, on va travailler moins, mais mieux. Voilà, c'est vraiment le truc. Donc, les Suédois, c'est vraiment une quête d'équilibre.
Les Uruguayens, ils sont pas mal là-dedans aussi.
Je ne sais pas si je mettrais les Uruguayens là-dedans, mais sinon, à Hawaï, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est la méthode, c'est hyper dur à dire, la méthode...
Ah oui, oui.
Ho'oponopono.
Ouais, voilà. Ça, c'est hyper la mode. J'ai vu plein de cahiers en France qui
vendaient... Ah, c'est vrai?
Ouais, il y a plein de livres sur le Ho'oponopono blu, qui est impossible à dire, oui.
C'est une méthode ancestrale qui permettait de régler les conflits dans un groupe, en fait. Et c'est vraiment une purification spirituelle. C'est le fait de trouver l'équilibre intérieur. On remet les choses en ordre. Et c'est vachement lié au pardon, en fait. Les quatre phrases du Ho'oponopono. C'est vachement dur, j'arrive pas.
T'es un peu lost.
C'est le lost in translation. Alors, les quatre mots, les phrases, les quatre phrases, pardon, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Ça, c'est vraiment la méthode.
C'est presque mes cinq mots magiques que j'essaye d'apprendre à mes enfants, dis donc.
Ça marche?
Moi, j'essaye de l'apprendre. Alors, c'est quoi les cinq mots magiques? Il y a bonjour, au revoir que t'as pas.
Bah non.
S'il te plaît, merci et pardon.
Presque, hein.
J'en ai 3 sur 5.
T'as un peu la méthode hawaïenne.
C'est pas le
quinté
plus, mais... Non, mais c'est lié. Ça, c'est en lien avec ce dont on a vaguement parlé une fois aussi sur la loi de l'attraction, avec l'importance de la gratitude.
C'est vrai.
C'est de plus en plus démontré qu'en fait, ce qui te rend heureux, c'est d'être... grateful.
David Laroche en parle
voilà,
beaucoup.
Voilà, grateful de...
C'est une des bases du yoga aussi.
Oui, c'est vrai. La gratitude, c'est en fait tout ce qui t'arrive dans la vie, tu dois être conscient de ta chance et de tout ce qui t'arrive. Et en fait, les gens qui sont profondément, qui ont ce bonheur intérieur et ce bien-être sont... comment on dit grateful en français?
Reconnaissant.
Reconnaissant.
Ouais.
Voilà.
Comment on dit table?
Ouais,
table, c'est ouais. Ça, ouais. Tiffen.
Jean-Claude Van Damme. Encore frappé. J'ai trouvé ça
très chiant.
Très intéressant.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Élise d'avoir participé à cette émission, à l'épisode numéro 29.
Merci beaucoup de m'avoir invitée.
Mais merci à toi, c'était
un réel plaisir.
Je
suis très contente et je vais le dire moi cette semaine. J'ai appris plein de choses.
C'est vrai.
Ouais.
Mais moi aussi, tu vois. Continue à nous suivre sur les réseaux sociaux, évidemment, Facebook, Twitter, Instagram. On va poster des photos, comme d'habitude, notre actu. Et on va lancer la dernière chanson.
Ils sont suisses, en tout cas.
Elle vient de Suisse. Elle s'appelle Charline et c'est du groupe
Vendredi sur mer. Alors, il y avait une chanson que, personnellement, j'aimais beaucoup, La femme à la peau bleue. Mais ce n'est pas celle-là qu'on va passer parce qu'elle n'a pas passé les critères de sélection de la petite radio. donc, on va passer Les filles du désir.
Et c'est un réel plaisir, Vendredi sur mer, Les filles du désir. Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode numéro 30. Salut les filles, à bientôt.
Ciao, ciao.
Ciao.
J'écris des chansons, je ne les chante pas. Et ton nom, je ne le dis pas. C'est des histoires que tu t'inventes. Romance d'un soir si ça t'enchante. Faut pas le dire, mais c'était court, faut pas l'écrire, ça pue l'amour, ça sert à rien, pourquoi courir? Il y en a plein des filles désirent. Faut pas le dire, mais c'était court, faut pas l'écrire, ça pue l'amour, ça sert à rien, pourquoi courir? Il y en a plein des filles désirent. Ce que tu touches, tu le détruis. Mon corps se couche sur ton ennui. J'ai fait l'impasse sur les mots doux, comme une terrasse en plein mois d'août. Fais pas semblant car je le sais, tu ne m'aimes que parce que je te hais. Mais c'est pas grave, tant pis, je prendrai un taxi. Comme gravir une montagne, je l'ai déjà envisagé. Tu peux sortir le champagne. Je veux commencer quelque chose de nouveau. Laisse-moi espérer un avenir plus beau. J'ai loué une voiture, je suis partie à la mer. Toute seule, je te jure, voyage en solitaire. J'écris des chansons, je ne les chante pas. Et ton nom, je ne le dis pas. C'est des histoires que tu t'inventes. Commence d'un soir si ça t'enchante. Faut pas le dire, mais c'était court. Faut pas l'écrire, ça pue l'amour. Ça sert à rien, pourquoi courir? Il y en a plein, des filles désirent. Faut pas le dire, mais c'était court. Faut pas l'écrire, ça pue l'amour.
Radio.